Popopop, Yann Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Moi, vous me connaissez, une bonne vieille histoire de pirate et je pars au quart de tour. Autant vous dire que dans cette BD, La République du Crâne, dont nous allons parler aujourd'hui, quand elle est arrivée sur mon bureau, eh bien mon sang n'a pas fait 100 tours, mon sang n'a pas fait 10 tours, non, mon sang n'a fait qu'un tour. Oh, l'appel du large, les aventures sous les tropiques, l'utopie anarchiste de ces sociétés d'hommes libres ayant réinventé leur monde au risque de finir à la potence, les courses en haute mer, le joli Roger qui claque au vent, les abordages frénétiques et barbares, le rhum qui coule à flot, Barbe Noire, Anne Bonny, Henry Morgan, Captain Kidd, et le mythique Long John Silver qui agita mes nuits d'enfance quand je croyais entendre sa jambe de bois dans les sifflements du vent. Oh, pardonnez-moi, je deviens lyrique. Autant vous dire que quand j'ai vu arriver cette BD, La République du Crâne, donc, de Vincent Brujas et Ronan Touloite, j'ai sauté dessus comme la vérole sur le bac clergé, comme on disait quand j'étais enfant de cœur. D'autant plus que le Binôme publie par la même occasion le premier volume de Cosaque, une autre forme de société pirate, bien que nettement plus terrestre. Bref, il y a du pain sur la planche. Pirates et Cosaques au menu aujourd'hui et Popopop, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Vincent et bonjour Ronan.
Bonjour.
Alors d'abord, pour que tout soit bien clair, sous quel pavillon vous présentez-vous à moi aujourd'hui? Quelles sont vos véritables intentions en montant à bord de Popopop? Sont-elles pacifiques? Et si oui, pourquoi ces poignards et ces sabres d'abordage que je vois dépasser de vos sarouelles?
Merde, je pensais l'avoir bien caché, moi.
Non, on est toujours armé, mais toujours sympathique.
Voilà, ouais. Vous venez en paix.
Exactement.
Très bien, je parlais de binôme en vous présentant, mais c'est exactement ça, hein, parce que vous vous connaissez depuis le lycée, vous avez produit énormément depuis une douzaine d'années. Qu'est-ce qui fait le ciment de votre collaboration, tous les deux?
L'amitié d'abord.
Oui, c'est...
Ronan, on va dire l'amitié, c'est bien, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas.
Non, mais on s'est connus pour travailler ensemble. Ouais. C'est-à-dire que je draguais sa sœur avec une très mauvaise technique.
Et j'ai gardé le frère.
Et j'ai gardé le frère, oui. Non, mais en gros, j'ai rencontré sa sœur qui m'a dit, bah écoute, moi j'écrivais des bouts de trucs. Et elle m'a dit, bah écoute, mon frère il dessine, ça ne t'intéresserait pas de travailler avec lui. Uh-huh. On s'est rencontrés pour ça, en disant, on va faire de la BD ensemble. Et en fait, c'est en cherchant à se faire éditer pendant 5 ans qu'on a aussi développé une amitié.
Mm-hmm. Tout à fait. Voilà. Il y a la passion commune de développer des univers qui nous est vibré tous les deux. Mm-hmm. Des références, beaucoup de références communes aussi.
Mm-hmm. Parce que oui, on avait pas mal de goûts en commun, ça c'est sûr.
De séries, de musique, de films, qui nous alimentaient aussi dans les envies de projets qu'on développait. Jusqu'à ce qu'on on signe notre premier album en 2008. Et puis, mm-hmm. Là, d'album en album, effectivement, ça ne fait que cimenter cette relation. Puis voilà, aujourd'hui, la bande dessinée, c'est un métier suffisamment dur comme ça. Je pense que quand quand on est à deux et puis quand on a une relation professionnelle, mm-hmm. en plus, évidemment, amicale qui fonctionne, ouais. Bon, faut pas se prendre
la garde. On la garde, oui. Et puis, on a pris toutes les grandes claques des débuts ensemble et ça cimente. C'est du vrai ciment.
Et le binôme a résisté contre vents et marées. Qu'est devenue la sœur?
Ça reste une très très bonne copine à moi, mais
heureuse en ménage.
Mais aucun regret.
Ni remords, ni regrets. Bon, on est là aujourd'hui.
On va pas développer parce que si elle nous écoute.
Et elle nous écoute, évidemment. On est là aujourd'hui pour parler des deux petits derniers, La République du Crâne et Cosaque, parus respectivement chez Dargo et au Lombard. Deux BD qui ont plein de choses en commun, comme nous allons le développer dans cette émission. Mais d'abord, un peu de musique. Et pour se mettre dans l'ambiance, je propose une petite chanson à boire. Une chanson des Pogs, donc.
Come on again, the pub where I was born. He played it from the night sound to the peaceful early morn. He served the souls of psychos and the men who had the horn. And they all looked very happy in the morning. But Jimmy didn't like his place in this world of ours. Where the elephant man brought storm in his neck and he had too many pairs. So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving. And he took the road for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain. We kissed him as we put him on. Train. And we sang him a song, our time's long gone. Now we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can. To the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by, the times that changed, I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sid Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home. And took the hump and watered whiskey down. And took the hooves and horses to the men and drank the brown.
cable left for heaven without warning. We walked him to the station in the rain. We kissed him as we put him on the train. And we sang them a song, our time's long gone, though we knew that we'd be seeing them again. I sad to say, I must be on my way to buy the beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer out of Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people may have scared the clock, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train. And we sang him a song, a time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way to buy me beer and whiskey, cause I'm gone far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan.
Ah, ça fait du bien.
Ah, ben oui, oui, ça ouvre les chakras, hein, comme on dit. Et c'était produit par Elvis Costello. C'était extrait d'un album qui s'appelait The Rum, Sodomy and the Lash, dans les années 80, au tout début. Bon, alors, comme je le disais il y a quelques instants, Vincent et Ronan, vous êtes un vieux couple, enfin, professionnellement s'entend, bien sûr. Et je voudrais juste quand même revenir un petit instant sur ces années lycée dont vous parliez il y a quelques minutes. Comment s'est opérée cette connexion entre vous? Parce que vous me dites, on est devenus potes. D'abord, c'était à quel lycée?
Dans le Val d'Oise, à Herblay, le lycée Montesquieu.
Donc, vous vous êtes rencontrés et il y avait une envie de BD commune déjà.
Il se trouve que donc ma petite sœur nous met en lien et puis
la fameuse petite sœur.
Voilà, on échange les mails. Vincent voit ce qu'il était en train d'écrire à l'époque, qui était les ébauches d'un roman de dark fantasy.
Ouais. À peu près.
Et
j'ai l'impression que j'ai affaire à deux geeks là.
Oui,
de plein de choses.
Je pense que pour faire ce métier, faut
être un minimum,
faut baigner là-dedans quand même.
D'accord.
Et puis, moi je lis et je me dis, c'est exactement ce que j'ai envie de dessiner en fait. Uh-huh. Je lis beaucoup de BD, mais je lis aussi beaucoup de romans. Et dans ma sélection, quand je lis du roman, c'est ce que l'écriture de l'auteur arrive à me générer comme image. Mais là, j'avais vraiment ça en fait. Et donc, ni une ni deux, je fais des dessins, je traduis la plupart des chapitres qui m'ont envoyé en scène en fait. Et puis, on se rend compte.
Et moi, j'étais très méfiant. C'est-à-dire que je disais, c'est dessiné, oui, on va voir. Voilà. C'est dessiné. Et puis en fait, quand il arrive au lycée, puis il montre ses dessins, toujours avec grand emphase, parce qu'il aimait bien montrer qu'il savait dessiner. Donc
il fallait que ça pète un peu.
Et
c'est parti du métier. C'est un geste professionnel.
Maintenant, on appelle ça Instagram. Et en fait, il pose ses dessins. Puis là, j'avais l'impression qu'il avait pioché dans ma tête, en fait, parce qu'il avait trouvé vraiment les images que je voulais voir. Oui, puis à l'époque, je savais pas qu'il dessinait mal. Tout comme lui, il savait pas que j'écrivais très mal aussi. Donc c'est ça, on s'est dit, il y a un truc qui match, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui match.
Vous avez rencontré votre double, c'est comme ça qu'on dit. Mais alors, Vincent, quelle qualité trouviez-vous à Ronan? Et Ronan, quelle qualité trouviez-vous à Vincent?
Je pense qu'au départ, c'est surtout beaucoup d'enthousiasme.
Ouais,
parce que c'est ce qui est resté, c'est que aujourd'hui encore, moi, quand je essaie de travailler avec un nouveau dessinateur, si je lui présente un projet et que ça répartit, c'est faut voir.
Ouais.
Ça me coupe tout de suite. Parce que moi, je connais Ronan. C'est-à-dire que Ronan, je lui propose un truc, soit c'est mouais, alors là, c'est que c'est mort, soit c'est il m'a déjà fait 15 dessins, j'ai pas encore fini ma phrase.
Non, mais l'enthousiasme, c'est ça. Et l'enthousiasme, moi, il est généré par ce qui résonne avec ce que je lis. Et là, j'avais ça, en fait. Alors, effectivement, il y avait aussi, maintenant, avec 20 ans de recul, on peut dire, effectivement, il y aurait des choses à redire. Mais nous-mêmes, on est très critiques sur notre travail, avec même ce qui est notre premier album. Mais à l'époque, moi ça résonnait énormément et ça me générait des images immédiates en fait. Ça coulait.
On n'avait pas les moyens à l'époque pour savoir ce qui était bon ou pas dans ce qu'on faisait. C'était juste une question de goût. Pour le coup, là,
Vincent Brugias, votre déterminisme familial vous poussait à devenir prof, certainement prof d'histoire, puisque avec la littérature c'est votre terrain de jeu, mais vous préfériez déjà l'idée de raconter plutôt que celle d'enseigner.
Ça c'est la version soft.
Officielle.
C'est la version officielle. Ouais. Parce que la vraie version, c'est j'aime pas les jeunes.
Bienvenue au club.
Voilà. Non, mais être prof pendant 40 ans, c'était un peu une image de l'enfer pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus une vocation à être pédagogue qui a vraiment aimé la matière, je pense. C'est un métier très difficile sur lequel je me sentais pas du tout d'aller. Et donc une fois ma maîtrise d'histoire en poche, il fallait que je trouve des trucs à faire, quoi. Mais j'ai été bibliothécaire pendant 8 ans et m'a recruté avant tout parce que je connaissais la BD. Donc j'avais déjà un pied là-dedans, en fait.
Je note quand même que vous n'êtes peut-être pas officiellement prof d'histoire, mais que les histoires que vous racontez tous les deux, sont toujours liées à l'histoire avec un grand H, de la Seconde Guerre mondiale avec votre première collaboration, Bloc 109, chez Aquileos, aux Cosaques d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une façon de communiquer votre passion pour l'histoire, justement, plutôt que de faire de la SF ou du contemporain,
par exemple? Parce que c'est un univers dans lequel je me retrouve très bien, en fait, dans lequel je suis à l'aise. J'ai jamais eu de problème à me plonger dans l'intellect de quelqu'un d'une époque, en fait. C'est-à-dire que j'arrive assez facilement à comprendre les tenants, les aboutissants. J'ai toujours eu de la facilité. J'ai énormément lu sur l'histoire, même dès mon plus jeune âge. Donc oui, c'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Et puis, c'est aussi le hasard des éditions qui fait que ces projets-là qu'on m'a d'abord amené, ensuite, on m'a demandé ça. On a été connu surtout par le roi des Ribauds, en fait, qui était vraiment un polar médiéval. Donc après, on nous demande plutôt quelque chose sur lequel on nous attend, en fait. Moi, après, ça me dérèperait pas de faire de la SF. D'ailleurs, on a un gros projet de SF en préparation, toujours avec Ronan, mais avec d'autres personnes aussi.
Collectif,
Mais en effet, l'histoire est venue avant tout. Et je pense que c'était aussi une façon de me cacher au départ, quand j'avais un peu peur de certaines choses. Avec mon inexpérience, je parlais d'histoire. Je connaissais, je maîtrisais, j'étais à l'aise.
Et donc, vous croisez la route de Ronan, Toulouat, t'es plutôt scientifique, un bac d'ingénieur en poche, et qui lâche tout pour la BD. Ça veut dire quoi? Aucun regret? Vous feriez quoi aujourd'hui si vous ne dessiniez pas? Des ponts, peut-être?
Je pense que je serais dans un bureau d'études. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'approche de 40 ans, je serais en train de me dire, est-ce que j'ai pas raté ma vie? et certainement avec un burn-out sur la tronche, comme la plupart de mes collègues d'école d'ingé de l'époque.
Alors que là, vous êtes heureux.
Alors que là, oui.
Ouais.
Mais en fait, le dessin, je l'ai en moi depuis très longtemps. Je dessinais gamin. Ça a toujours été un mode d'expression assez facile. Et j'étais aussi alimenté par mes grosses et nombreuses lectures de bandes dessinées de l'époque. Mais pour autant, dans l'ambiance familiale, il y avait c'est bien un dessin, mais débouché, tout ça, machin. Ouais. Faut que tu t'assures un truc.
Ouais,
et puis quelque part, moi j'aimais bien les sciences. J'ai toujours aimé les sciences. J'aime toujours ça. Ça m'empêche pas en dessinant d'écouter des podcasts ou des vidéos de YouTube d'astrophysiciens ou de physiciens pour tenir un peu au courant des choses. En ce moment, par exemple, je suis beaucoup le travail de Jean Covici, par exemple. Ça va aussi dans le temps. Et surtout, c'est que à l'époque de ce qu'on nous enseignait en école d'ingé, je ne voyais pas un débouché qui me plaisait. Je n'y voyais rien qui me pourrait me transporter vers quelque chose. J'aurais l'impression de m'accomplir. Et moi, ce en quoi j'avais confiance, c'était le dessin. Et puis la relation qu'on était en train de construire. Et puis l'envie de concrétiser des projets. Alors c'est vrai que notre premier album Bloc 109, on se disait, ça se trouve, c'est notre premier et notre dernier. Donc il faudra rebondir si c'est une catastrophe. Il se trouve que ça a marché, puis de fil en aiguille, moi j'ai continué sur cette lancée-là.
Fil en aiguille, vous êtes devenu, pardonnez-moi, mais des vieux briscards aujourd'hui, de jeunes vieux briscards de la BD. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune, je sais même si vous les aimez pas, Vincent, qui nous écoute et qui se dirait, j'ai envie de faire de la BD plus tard?
De ne pas faire de la BD.
Voilà, surtout ne fais pas de BD.
C'est pas pour éviter un potentiel concurrent, c'est que le métier est de plus en plus dur. Financièrement, structurellement, même si les deux dernières années ont été des très bonnes années dans l'édition et en particulier dans la bande dessinée, pour les auteurs, c'est pas du tout la même chose.
Et surtout, nous, on a eu une énorme chance, en fait, dans notre carrière, c'est que on a eu ce succès de Bloc 109 chez un petit éditeur qui nous a mis à l'abri pendant 3-4 albums de pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. Et en fait, on a fait notre fanzina à ce moment-là, parce que nos albums sont, on a certains qui sont très mauvais, d'autres qui sont moyens sur ces quatre-là. Et en fait, nous, on a pu faire nos albums, alors qu'aujourd'hui,
il y a un rendement immédiat.
On dit souvent qu'il a jamais été aussi facile de faire un album et jamais aussi difficile de faire le deuxième.
Exactement.
Et nous, on a pu enchaîner 2, 3, 4, et ça nous a formés, en fait. Bien. Et ça, aujourd'hui, pour le trouver, c'est chaud.
Conseil à nos jeunes auditeurs, c'est
Bah moi,
faites de la BD, mais si vous allez,
faites ça de la BD, vous allez en chier. Ouais. Et c'est pour ça. Moi, j'ai souvent des étudiants l'école Pivot, notamment à Nantes, qui viennent en stage ou qui posent des questions. Et moi, je leur dis, votre métier, ça sera le dessin. Vous allez faire, il y a plein de secteurs où vous pourrez vous exprimer. Si à un moment vous voulez faire de la bande dessinée, vous faites. Mm-hmm. Mais mettez-vous complètement sur un album, vous verrez ce que ça donne. Mais ne vous mettez pas bien en tête de faire une carrière.
Et surtout, ne vous cramponnez pas un projet. Exactement. Dès le départ. C'est-à-dire qu'en pensant que c'est le projet de votre vie.
Bien, ouais. Voilà pour les conseils. Vincent Renan, dans un instant, nous allons parler de La République du Crâne, votre nouvel opus chez Dargo, mais également de Kozak, qui est aussi votre nouvel opus, mais chez Le Lombard, lui. Ouais. Mais tout de suite, la chanson Disney, indispensable à toute bonne émission sur les pirates, c'est Pirate's Life for Me, dans sa version française. Yo-ho, vive la piraterie!
Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie! On pique, on saccage, on monte à l'abordage, buvons, mes amis, yo-ho! Nous sommes des fricots qui pillent et qui dépouillent, buvons, mes amis, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie! On carotte, on escroque, on craque les coques, buvons, mes amis, yo-ho! Remplissons nos tabacs, les vides, on les cale, buvons, mes amis, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie! On brûle, on allume, on flambe et on fume, buvons, mes amis, yo-ho! On pille les villes et puis on les grille, buvons, mes amis, yo-ho! Nous sommes des canailles, les rois de la racaille, buvons mes amis, yo-ho! Et nos chers parents sont fiers de leurs enfants, buvons mes amis, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie! On pique, on saccage, on monte à l'abordage, buvons mes amis, yo-ho! Nous sommes des fricots qui pillent et qui dépouillent, buvons mes amis, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie! On carotte, on escroque, on craque les coques, buvons mes amis, yo-ho! Remplissons nos tabacs, les vides, on les cale, buvons, mes amis, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie! On brûle, on allume, on flambe et on fume, buvons, mes amis, yo-ho! On pille les villes et puis on les grille, buvons, mes amis, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie! On les croit!
On dit qu'on s'agage, on monte à l'abordage, buvons, mes amis, yo-ho! Oh, oh,
yo-ho! Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie!
Et bien sûr, tu prévues de reculer, j'y viens tout pas tard, tu vas nettoyer le fond de ce bout de rêve, yo!
Et on va croiser le fond vert!
France Inter, Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux, qui non, hélas, ne se joint pas à nous aujourd'hui puisqu'elle est allée faire un tour dans sa Picardie natale pour des raisons d'ordre familial. Que son fan club, dont je suis le président, se rassure, elle sera de retour dès demain. Je suis donc avec Vincent Brujas et Ronan Toulouat. J'ai bien prononcé?
Oui, toujours.
Parce que généralement, elle me reprend. Qui viennent nous parler de leur BD au pluriel, La République du Crâne et Kozak. Alors messieurs, gentilhommes, fortune, commençons par cette République du Crâne, éditée chez Dargo. Charline, je me tourne vers vous. De quoi s'agit-il dans cette République des pirates? Ah ben non, je suis bête, je viens de dire qu'elle n'était pas là, je me retourne vers vous. Donc. Alors, j'y vais. En quelques mots, nous sommes dans la courte période entre 1716 et 1726, pendant laquelle, à la fin de l'âge d'or de la piraterie, les pirates se voient pourchassés par la marine britannique. Deux amis, le capitaine Sylla et Olivier de Vannes, voués corps et âme à l'idéal de liberté presque révolutionnaire de leur profession, se trouvent en cheville avec Mariam, une mystérieuse reine africaine qui s'est libérée des chaînes qui la menaient à l'esclavage. Ensemble, ils vont combattre, puis fuir l'amirauté britannique, depuis le Caraïbe jusqu'aux rivages africains. Mais rien n'est simple dans le monde tiraillé entre la fin d'un rêve et les calculs politiques entre des idéaux libertaires et la soif de vengeance des opprimés. Merci Antoine. De rien. Alors, attaquons par ça. Ce qui vous intéresse tous les deux avec les histoires de pirates, c'est de porter un regard historiquement juste sur le monde de la piraterie et de pulvériser au passage quelques stéréotypes en cours. Les pirates étaient tout sauf des anges, mais c'était pas que des brutes sanguinaires.
Absolument pas.
Oui, non, en fait, ça fait longtemps que Ronan me disait je veux faire quelque chose sur des bateaux avec des pirates. Et moi, j'arrivais pas à dépasser l'imaginaire de la chasse au trésor.
Je voulais de l'aventure maritime, mais il est vrai que le pirate est plus fédérateur et ramène beaucoup de choses. Ouais. Mais oui, on était tous les deux d'accord là-dessus, pas de chasse au trésor.
Pas de chasse au trésor. Et puis, en fait, j'arrivais pas, enfin, le concept des pirates n'arrivait pas à me prendre. Et j'ai regardé en fait la série Black Sails, ouais. qui commence comme une chasse au trésor d'ailleurs, mais qui très vite part sur d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, en fait, tu connais, en plus, je connaissais à peu près cet univers-là. Je me dis, tu sais très bien les différences qu'il y a entre un film comme Pirates des Caraïbes et la réalité. Bah, pourquoi tu pars pas là-dessus, en fait? Et c'est à partir du moment-là où j'ai eu cet angle-là que j'ai pu développer, j'ai pu amener les choses. Et en effet, je m'étais dit, bah, on va partir sur l'idée de faire un... vraiment de démythifier, d'enlever tout ce qu'il y a autour du mythe en fait des pirates et d'aller vraiment piocher.
Alors attendez, puisque vous parlez de Black Sails, hein, cette fameuse série qui a été diffusée entre 2014
ouais,
et 2017, ouais. Bah, ouais. Écoutez ce que ça donnait.
No matter the struggle, no matter the cost, I'm gonna make you the princess of the new world.
Pas mal. Excellente série de piraterie.
Excellente, oui. Avec un générique de début de chaque épisode absolument génial. Et dont la musique nous a porté, nous a bercé pendant toute la réalisation de cet album, l'un comme l'autre.
Et puis qui mélange un peu comme chez vous la réalité et la fiction, parce que ça part de Flint, qui est un personnage fictionnel chez Stevenson, hein, qu'on retrouve dans L'île au trésor, évidemment. Et puis les vrais pirates, des pirates.
Il va rencontrer énormément de grandes figures de la piraterie. Ça prend beaucoup de liberté avec l'histoire, mais ça dit aussi pas mal de choses vraies. Et donc moi c'est un peu le parti que j'ai pris. Je me suis dit, j'ai lu un livre Pirates de tous les pays.
Unissez-vous
de Marcus Rydeker, et en fait ça m'a suffi à piocher pas mal de choses sur la vraie piraterie, et surtout c'est pour ça qu'on a évité, c'était un des premiers trucs qu'on s'était dit, c'était ne pas prendre de vrais pirates, vraiment inventer une autre, parce que sinon on aurait eu un catalogue d'anecdotes, de petites histoires de leur vie, et c'est pas ce que je voulais faire.
Un petit barbe noire qui traîne quand même.
Parce que
on est obligé de passer par ces figures là et du coup d'en montrer quelques-uns justement qui servent le récit
à appuyer certains faits, certaines décisions,
nos personnages principaux,
voilà, mais nous on voulait vraiment créer des personnages à part pour qu'ils puissent représenter un peu tous les pirates et un peu plein de sortes de pirates. Et une fois que ce canevas était fait, l'histoire s'est vraiment déroulée un peu près toute seule.
Est-ce qu'il y a des résonances entre cette utopie libertaire des pirates et puis des aspirations plus contemporaines à vouloir imaginer un autre modèle de société?
En tout cas, nous, on l'assume. En tout cas, dans le propos qu'on veut développer dedans alors déjà, oui, il y a
Ronan qui parle.
Oui, pardon.
mais
nous, en tout cas, on voulait assumer un propos politique qui venait de toutes nos réflexions sur l'affaire des Gilets jaunes.
Du monde qui nous entoure, en fait. Parce que les pirates sont victimes du commerce mondial qui se développe à l'époque. Si on les supprime, si on va les traquer et les faire disparaître, c'est pour protéger quoi? C'est pour protéger le commerce des esclaves. Donc, si on prend avec le regard d'aujourd'hui, et ce qu'on pense du commerce des esclaves aujourd'hui, on devrait dire, les gentils, c'est les pirates. Vu qu'on aime bien dire, il y a des gentils et des méchants, c'est ce qui est, voilà. Là, dans ce cas-là, on devrait plutôt pencher du côté des pirates, plutôt que de dire, non, c'est les marchands anglais ou les marchands portugais et tout, c'était eux les gentils. Ce commerce des esclaves. Donc, à un moment, c'est interroger l'hypocrisie aussi de ce monde-là, ça, c'est quelque chose qui est très important chez les pirates d'ailleurs, c'est l'hypocrisie, l'injustice. C'est quelque chose qui ressortait aussi parfois dans les propos des Gilets jaunes, c'est l'idée qu'à un moment, faut arrêter avec l'hypocrisie, faut arrêter avec les faux semblants. Il faut. Il y a un autre mot qui revenait très souvent chez eux, c'était l'iniquité. Et ça, donc à partir du moment où il n'y a pas une justice pour tous, c'est pas normal. Et ça, c'est des propos qui aujourd'hui sont toujours d'actualité. Énormément d'actualité.
Brûlante, oui. Alors, Vincent, Ronan, dans la République d'Ukraine, on trouve vos pirates menés par le charismatique Sylla qui prennent d'assaut un navire portugais, semble-t-il abandonné, mais, dans lequel sont tapis des esclaves africains, justement, qui se sont rebellés, menés par une non moins charismatique reine Maria. Mais là, c'est la rencontre de deux mondes, une démocratie conquise de haute lutte pour les pirates et une monarque ruinée, mais toujours adulée par les siens, et qui pose cette question, où commence la liberté, où finit la servitude? Vous avez une heure, je repasse vers 17h pour prendre les copies avant le flash de Laetitia Gaillet. Allez-y.
Bah, lisez l'album.
Ouais, il a mis 2 ans pour qu'on réponde. Voilà. Non mais
c'est une question fondamentale.
Ça m'amusait justement de les mettre, de les confronter à un problème. C'est-à-dire que ils sont face à quelqu'un qui peut être leur allié et en même temps dont le pouvoir repose sur des fondements totalement opposés à ce qu'eux représentent. Ouais. Donc c'est mon petit jeu de scénariste, c'est-à-dire de mettre mes personnages face à quelque chose qui est face à un mur en fait. Et surtout c'est que certes c'est une reine, elle a beaucoup de pouvoir sur ses sujets, mais elle a traversé l'enfer avec eux et elle les a soutenus. Donc en même temps, est-ce qu'elle mérite pas ce... Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là que je pose, auxquelles je réponds pas forcément d'ailleurs. Je mets juste le doigt dessus. Et en effet, l'idée c'était vraiment, il y a des raisons d'un côté, il y a des bonnes raisons, de mauvaises raisons. Et là pour le coup, je voulais pas juger surtout Mariam, je voulais qu'elle devienne un personnage. Alors c'était là la difficulté qu'on s'en est rendu compte qu'après, c'est qu'on a un personnage qui était très important pour le bouquin, alors qu'il parle pas beaucoup. Et en BD, ça lui permet pas de vivre si elle parle pas. Et pourtant, on a réussi parce que c'est un personnage qui nous a énormément demandé en dédicace.
Que son charisme a marqué. Mais justement, c'était ça la difficulté, c'est de faire un personnage charismatique et qui ne soit que ça, enfin que elle transcende le fait qu'elle soit reine. Et c'est marrant parce que elle est venue assez vite, graphiquement en tout cas, quasiment dès le départ, puisque ça faisait partie des premiers dessins qu'on avait proposé à notre éditrice pour lui proposer le projet.
Et d'ailleurs, c'était ce qui l'avait convaincu de faire le projet.
Exactement.
Hein. C'était un dessin d'elle,
en trône sur un tapis de crâne.
Un côté beaucoup plus violent.
Oui, un peu plus. Mais bon, voilà, elle avait cette prestance que j'avais déjà et j'avais réussi à choper. Puis du coup, mais si j'avais trop intellectualisé le personnage, je pense que je me serais planté graphiquement.
Mais Mariam, la fameuse reine Mariam, dans votre livre La République du crâne, elle pose d'ailleurs aussi la question des femmes dans le monde des pirates, parce que je parlais de Anne Bonny ou de Mary Read, qui ont été associées à Jack Rackham. Elles ont véritablement existé, mais la réalité était sans doute beaucoup moins féminine que ça, non?
Moi, je pense que c'est notre part un peu de fictionnel fantasme. Et de fantasme, c'est qu'en effet, je pense que des femmes auraient eu beaucoup plus de problèmes, parce qu'on connaît ces deux pirates, Mary Read et Anne Bonny, et on sait qu'elles avaient un sacré caractère et qu'il fallait, fallait pas les chercher. Donc je pense que oui, pour être une femme sur un bateau, fallait avoir vraiment des arguments.
Et pour autant, elle s'habillait en homme.
Oui, mais elles n'étaient pas sur un bateau en tant que femme, elles étaient travesties en quelque sorte. La femme n'a pas de place sur le bateau, clairement. De toute façon,
ces hommes, les pirates de cette époque représentent les hommes de leur époque aussi. Oui. Et il y a tout ce fantasme sur la peur de la femme à bord qui porte malheur. Il y a vraiment des croyances très très fortes sur des symboles qui peuvent apporter le mauvais œil. Et tout est bon pour alimenter
après,
ça.
Après, on sait que les pirates ont libéré souvent des négriers.
Oui, ça oui.
Que dans les négriers, il y avait autant de femmes que d'hommes. Que sont devenues ces femmes? Ça, par contre, on n'en parle pas beaucoup.
C'est un livre absolument passionnant que cette République du crâne, et j'espère que vous, amis auditeurs, vous le sentez avoir l'enthousiasme intact de nos deux amis qui l'ont signé, messieurs Brujas et Toulouat. Vous ne bougez pas, on va continuer à en parler dans quelques instants, et ainsi que de Kozak, votre autre ouvrage sorti au Lombard, mais là il est, presque 33, et c'est l'heure des Pop News. Coup d'envoi ce vendredi de la 10e édition de l'opération 48 heures BD. 11 éditeurs et 1700 libraires s'associent pour célébrer la richesse et la diversité de la BD partout en France et en Belgique. 50 000 albums sont donnés aux écoles, collectivités et associations. Et c'est aussi l'occasion pour les amateurs de trouver 250 000 bandes dessinées diverses et variées vendues pour la modique somme de 2 euros. Alors lisez de la BD, des manifestations sont prévues un peu partout en France et les infos sont à retrouver sur 48heuresbd.com. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est un voyage en gondole, une balade près de la fontaine de Trévis, une visite du Castel Nuovo que je vous propose maintenant grâce au nouveau titre de cet irrésistible Latin lover à la voix d'or, le rossignol de Carquiran et Torre Grande de retour avec Balla come sei bella.
Balla come sei bella, lasciati andare, non ti fermare, tutta la notte, il cuore che batte, fammi vedere come finirà. Non ci sto a credere ancora alle tue parole, ma non so, non riesco a dirti di non tornare. Tu lo sai,
questa storia.
Ah, une douce et envoûtante mélopée à retrouver sur la chaîne YouTube d'Ettore Grande.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Ben si, c'est moi. Alors, c'est à vous de deviner de qui j'imitais là, puisque Charline n'est pas là aujourd'hui. Ben si, c'est moi.
Aucune,
ça vous laisse sans vie. Non, sans voix. Non, non. Ben non mais. Et Ettore Grande, messieurs, qu'on vient pourtant d'écouter.
Enfin... Un pirate. Quelque part. Un pirate de la musique.
Un pirate de la musique, d'une certaine manière, oui. Bon, je reviens à la République d'Ukraine. Une des trouvailles du récit, c'est que le narrateur Olivier Devanne, qui vient de Vannes, la ville, s'adresse dans son journal de bord à un hypothétique amiral britannique dont il imagine qu'il sera son bourreau le jour où il se fera prendre ou tuer. Il nargue donc à la fois un ennemi réel et imaginaire, au-delà de la mort, parce que la mort violente, disent les pirates, est inévitable et même souhaitable. Pensez aussi comme eux que c'est ce qui donne un sens à la vie, quand on est un pirate, bien sûr.
Bah, pour eux, en fait, il n'y avait pas le choix. À partir du moment où ils deviennent pirates, et souvent ils deviennent pirates parce qu'en fait, ils se mutinent, pour des raisons, des fois, juste, ils ont reçu trop de coups de fouet, ils ont faim, ils sont sur le bateau. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même le pire métier du monde à l'époque, un marin. Hein, c'est vraiment. Et donc, au bout d'un moment, par dégoût, par plein de choses, ils se révoltent. Et à partir du moment où ils se révoltent, ils savent que s'ils sont récupérés, ils sont pendus. Donc, bah, quitte à être pendu, autant profiter.
Ouais.
D'où le fait que, d'ailleurs, les trésors de pirates, il y a peu de chances que ça existe, hein, parce que à partir du moment où ils ont de l'argent, ils le dépensent dans des prostituées et de l'alcool. Donc, ça, c'est sûr que. Mais donc, pour eux, oui, c'est quelque chose qui est énormément présent dans leur ce qu'on sait d'eux, c'est vraiment la mort est inéluctable.
La moyenne d'âge. L'espérance de vie, c'est 27 ans.
Oui, ils ont une conscience aiguë de la finitude de leur vie, en fait. Ouais. Rien que de fait, parce qu'ils sont marins et que ils savent que sur une traversée, ils ont 20% de chance, si ce n'est plus, de mourir. Puis alors, d'être blessé, d'être amputé, ça, c'est quasiment.
Une blessure peut être la mort, souvent,
tout à fait. Dès qu'il y a cette opportunité-là de se libérer d'un joug d'un capitaine, ils y vont à fond, quoi. Donc, il y a cette sorte de volonté de brûler la vie par les deux bouts. Et en même temps, ils refont société. Donc, c'est quand même assez remarquable, en fait.
Parce qu'en fait, ils veulent que, sur ce qui leur reste à vivre, ils soient tous traités de manière égale. Ça, c'est vraiment. Et surtout, c'est là où ils ont compris certaines choses que je trouve qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Ils ont compris qu'être. Alors, le terme n'est pas le bon, c'est le terme citoyen. Mais en gros, si on veut qu'une démocratie marche, il faut être actif. Et ça, le moindre marin va surveiller ce que le capitaine fait. Il veut être au courant de ce qui se passe. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi on va ça? Il y a vraiment un côté. Et même s'ils n'ont pas les armes intellectuelles, parce que il y a beaucoup de parts qui savent pas lire, ou des fois ils parlent pas même forcément la même langue en plus. Mais malgré tout, il y a toujours cette importance de chacun a une voix et ma voix elle compte. Et je vais vraiment dire ce que je veux. On est vraiment dans la démocratie la plus pure.
Je voudrais aussi dire deux mots quand même des Cosaques, hein, parce que cette République d'Ukraine, on pourrait en parler des heures et des heures. Vous connaissez ma passion pour les pirates. Je voudrais juste faire une petite articulation dans cette émission, avec parce que vous poussez le zèle jusqu'à terminer l'album par un texte d'un historien, Fadi Elhage, qui recontextualise cet épisode de la piraterie. Et au début de ce texte, Fadi Elhage cite George Harrison, qui lors d'une émission de télé en 75 avait chanté ceci.
A pirate's life for me. All my friends are pirates and they sail the BBC. I got a Jolly Roger, it's a black and white and fast. So get out of your skull and crossbones and I'll run it off your mast.
Eh oui, George Harrison en pincée, lui aussi pour les pirates. Bienvenue au club. Bon, je passe sur les Cosaques, l'autre ouvrage qui lui est édité au Lombard. C'est un tout autre univers auquel vous attaquez avec le premier tome de cette nouvelle série. C'est paru vendredi dernier. Enfin, tout autre univers, ça reste à prouver parce que nous sommes au XVIIe siècle et il y est question d'une société de hors-la-loi, même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en l'absence de Charline, je me tourne vers moi-même pour en savoir plus. Allez-y, Antoine. Merci. 1634, aux environs de Kiev, c'est totalement schizophrénique cette émission. 1634, aux environs de Kiev, le jeune hussard lituanien Karlis, dégoûté par la violence de sa compagnie et les mensonges de son commandant, déserte, poursuivi par ses anciens compagnons. Il se retrouve pris en charge par un vieux cosaque. J'arrête là parce que c'est juste l'entrée en matière. Alors, on va commencer par mettre un point sur cette histoire, bien que située dans l'actuelle Ukraine, n'a rien à voir avec les événements actuelle. Et d'ailleurs, il était prévu qu'elle sorte bien plus tôt.
C'est ça, en fait, nous, moi, j'ai fini de l'écrire en 2016. Donc, on était loin.
On a été, oui. Ou alors, vraiment, vous avez un pif.
Oui. Une intuition de fou.
Il n'est pas question de République d'Ukraine, mais de République des deux nations. Est-ce que vous pouvez juste nous rafraîchir la mémoire?
Alors, parce qu'à l'époque, pour beaucoup de gens, les Cosaques, c'est les Russes. Enfin, c'est russe. Et non, les Cosaques, c'est un peu les Gaulois des Ukrainiens. Donc, voilà, c'est vraiment le point de départ pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est les Cosaques. Et les Cosaques, ce sont simplement une société qui vit en marge, à la frontière, de deux États, les Ottomans et la République des Deux Nations. Et la République des Nations, c'est quoi? C'est simplement deux entités qui se sont réunies pour former un seul grand royaume afin de mieux se protéger. C'était le Grand-Duché de Lituanie et le Royaume de Pologne. Mmh. Avec quand même une certaine préséance du Royaume de Pologne sur la Lituanie. D'ailleurs, notre personnage est lituanien, ça explique pas mal de choses aussi. Ces deux États se sont réunis pour mieux se défendre, parce qu'en effet, ils étaient aux portes de plein d'ennemis différents. Et d'ailleurs, ils vont finir manger. En 1793, il y a plus rien. Et ils vont former une espèce d'État un peu particulier, très particulier dans l'histoire mondiale et de l'Europe, dont le symbole est les hussards ailés, ça célèbre hussards avec des ailes dans le dos, même si les ailes sont fausses, hein, ça n'a jamais existé.
Oui, j'avais imaginé. Ouais.
Et en fait, cette République des Deux Nations élit ses rois. Élit son roi, mais parmi des princes étrangers. Donc c'est pour ça qu'on appelle de république. Mais c'est les nobles qui votent, pas non plus n'importe qui.
Mais l'idée intéressante, c'est qu'on ne naît pas cosaque, on le devient.
Exactement. S'ils sont à 75% ukrainiens, ils réunissent aussi plein de gens qui viennent, qui fuient en fait. Donc des hors-la-loi, des gens qui sont en rupture de banc, et qui vont s'installer. En fait, c'est vraiment, il faut imaginer un peu ça comme la frontière dans le Grand Ouest américain. C'est-à-dire que dès qu'on a envie de changer d'air, on part, on va s'installer, on prend une ferme, on s'installe. Bah, les Cosaques, c'est la même chose, mais sur ces grandes plaines ukrainiennes où, qui n'étaient pas encore ni aux Ottomans, ni à la République de Nations, qui étaient un peu entre deux mondes.
Alors Renan, c'est encore un projet très ambitieux graphiquement.
Ouais.
Enfin, c'est de l'univers des pirates en plein ciel, pleine mer, ouverture.
Tout à fait. Bah, alors là, il y avait effectivement l'appel de l'aventure dans ce, alors comme pour les pirates bien sûr, mais des grands espaces surtout, de cieux immenses qui mangent un peu toutes les pages. Particularité quand même, parce que je co-dessine sur cet album avec Yoann Guillot, qui est par ailleurs coloriste, mais qui sait aussi dessiner et notamment peindre, donc là en l'occurrence numériquement. Et nous sommes partagés les tâches sur cet album. Moi, je mets mon point fort évidemment, c'est les personnages, et lui, bah c'est tout ce qui est atmosphère, ambiance, paysage. Et donc chaque page est le produit de nos deux mains. Alors moi la gauche, lui la droite, moi la gauche. Et du coup, c'est vraiment parfait. Ça fait une sorte de truc schizophrène aussi.
Ouais.
En fait.
Exactement.
Mais moi pour le coup, c'était l'occasion de se réinventer un petit peu aussi graphiquement et de voir ce que quelqu'un d'autre allait apporter moi à mon propre dessin, puis moi qu'est-ce que j'allais pouvoir changer dans mon dessin pour faciliter aussi le travail de Yoann. Et ça a été un laboratoire, clairement un long laboratoire, mais qui est chargé de tas de choses qu'on va continuer à mettre en place.
Non mais c'est de la haute montagne là. Qu'est-ce que vous préférez dessiner, les bateaux ou les chevaux?
Les deux.
Ouais, vous êtes comme
les,
ça,
deux, ouais. Les deux. Le bateau, il y a quelque chose de, même si c'est une machine, il y a quelque chose de très vivant et très organique.
Enfin, le bateau en bois.
Ce bateau,
attention.
Mais moi, par culture, j'ai fait beaucoup de voile. J'ai passé toutes mes vacances enfant en Bretagne. Forcément, dessiner la mer et les bateaux, et ayant été bercé par ces histoires de mer, un de mes films préférés, c'est Master and Commander. Forcément, les dessiner, c'était bon. Alors après 200 pages, je reconnais qu'il va falloir une petite pause avant d'y retourner. Surtout quand on se casse le crâne sur tous les détails à mettre et tout. Je suis pas Patrice Pellerin, mais je voulais quand même quelque chose d'assez précis.
Ah non, mais c'est très précis. Votre
mais sur Cosaque, oui, effectivement, c'est on reste sur les chevaux, on reste sur du western. Mais pour moi, le cheval, c'est un des plus beaux des animaux à dessiner.
Alors, comme on dit, on est sur du eastern.
Exactement. C'est le terme qui convient. Bon, que vous aimiez la mer ou que vous aimiez la terre, vraiment, il y en a pour tout le monde là aujourd'hui. Les Cosaques de Brujas, Guillot et Toulouat, je l'ai bien prononcé.
Oui.
C'est édité au Lombard et la République du Crâne, c'est chez Dargaud. Vincent Brujas, Renan Toulouat, je rappelle que vous êtes là pour nous parler. Pourquoi je le rappelle? Parce que je suis en train de le dire.
Bah oui.
Non. Je voulais juste dire que je recommande très très chaudement les deux. Eh oui, ma Charline me manque aujourd'hui. Bon, vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons parler d'Arkane, d'Imagine Dragons, de Batman, mais aussi de Sorceller. Mais pour l'heure, écoutons ensemble The Parcels, qui eux aussi aspirent à une vie plus grande. C'est Something Greater. Greater Parcels, on les aime bien, nos petits Parcels dans Pop Pop Pop. Car oui, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ça, c'est le choix de Renan.
Oui, tout à fait.
Pourquoi ça symbolise la pop culture, ce Sega?
Moi, c'est parmi les premiers sons que j'entends enfant quand je vais chez les copains pour jouer aux jeux vidéo, parce que j'avais pas de télé ni de console à la maison. Mm-hmm. Choix de mes parents que je respecte. Hein, mais bon. Mm-hmm. Mais du coup, aller chez les voisins et jouer aux jeux vidéo et entendre en fait systématiquement ce son en fait. Ouais.
C'est la liberté.
Oui. Puis il y avait autre chose. Puis il y avait aussi du coup une sorte de départ vers plein d'imaginaires en fait que je ne pouvais pas connaître. Je n'aurais pas pu connaître par ailleurs. Donc c'était beaucoup plus puissant en fait.
Il écoutait ça avec son orange qu'il avait à Noël.
Oui, avec des clous de girofle dedans.
Exactement.
Oui, bien sûr.
Pour éviter le dentiste.
J'étais habillé dehors.
Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série pour votre poplist, car c'est le moment de votre poplist. Alors, oh non, puisque je vous tiens, je ne vous lâche pas. Votre livre souvenir, c'est Le Sorceleur d'Andrzej Zapkowski, édité en France chez Bragelonne. Charline, enfin Antoine, je me tourne vers vous. Racontez-moi. Eh bien, pour nos auditeurs, je rappelle que Le Sorceleur, c'est celui que beaucoup connaissent sous le nom de The Witcher, le jeu vidéo, puis la série avec Henry Cavill sur Netflix, mais qu'il est question ici de la série de livres qui met en scène Geralt de Rive, sorceleur donc, c'est-à-dire tueur de monstres, lui-même issu d'une espèce mutante.
Absolument.
Renan, vous préférez les livres à la série ou c'est simplement
en fait, là,
j'ai
découvert le personnage avec la série puis le jeu vidéo, et là, je me suis dit, non mais je vais lire les bouquins en fait, quand même. C'est un peu la source, et donc en ce moment je suis en train de les lire, donc c'est pour ça, le livre du moment c'était clairement le Sorceleur, et c'est chouette. Et après je suis aussi en ce moment je suis dans une période de lecture où j'ai besoin de m'évader dans des univers divers et variés, donc il se trouve que là c'était The Witcher, mais ça aurait pu être plein d'autres bouquins que ce soit de chez Bragelonne ou d'autres. Notamment des bouquins de Pierre Pével.
Oui.
Wilstadt ou ces dernières en date que j'ai beaucoup aimé, c'était.
Je vous laisse retrouver
parce que fatigue, mais ça va passer, ça va revenir.
Je vous laisse retrouver le titre et je passe maintenant la parole à Vincent parce que votre série du moment, c'est Arcane. C'est une série d'animation franco-américaine sur Netflix qui se déploie dans l'univers du célèbre jeu vidéo League of Legends de Riot Games. Charline, enfin Antoine. Résumez-nous, s'il vous plaît. Alors, dans le monde fictif de Runeterra, deux villes s'opposent, Piltover et Zaun. Les sœurs Jinx et Vi ont grandi à Zaun, ville des pauvres et des délaissés, mais aujourd'hui, leurs vies sont bien différentes l'une de l'autre.
Vous pensez avoir l'étoffe d'un héros? Alors, qu'attendez-vous?
De nombreuses victimes pourraient être à déplorer. Le monde d'en bas ne peut pas être contrôlé. Vous avez fait quoi de ma sœur?
Je lui dirai que tu lui passes le bonjour.
Le cycle de violence ne s'arrêtera jamais. On ne peut plus rien faire pour elle.
Je dois quand même essayer.
Arcane, le choix de Vincent. Alors Vincent, vous dites que cette série est une claque pour vous. Pourquoi vous avez manqué de respect à Vi ou à Zaun et leur mari est pas content?
Non, c'est vraiment je regarde beaucoup de séries et puis c'est vraiment la dernière qui me reste en tête à m'avoir vraiment beaucoup plu. Parce que c'est déjà c'est bien écrit. C'est-à-dire il y a pas de fausses notes, les personnages sont bien tenus. J'ai vu pas mal de séries parce que c'est une série animée mais pourtant elle fait bien mieux le travail que beaucoup de séries que j'ai pu voir avec des acteurs. Et ça se tient de bout en bout. Il y a assez peu d'épisodes et assez pour qu'on ait un développement, mais en même temps on s'ennuie pas. Donc c'est vraiment et puis d'un point de vue graphique c'est juste magnifique avec une animation. Je crois que j'ai jamais vu des combats aussi badass que dans Daredevil. Et puis My Name, une série coréenne que j'avais vue. Et sinon, Arcane, vraiment, en dessin animé, arrive à me donner cette impression-là.
Arcane.
Alors que par contre, je ne connais pas le jeu vidéo et ça ne m'intéresse pas.
Arcane, la série d'animation donc sur Netflix. Alors votre choix cinéma maintenant, Renan, vous avez retrouvé le titre du livre ou pas?
Oui, c'est L'âme du cardinal de Pierre Coel.
Merci. Votre choix cinéma maintenant, c'est The Batman de Matt Reeves, la nouvelle incarnation du sombre héros de Gotham.
Absolument.
Charlie Twain, je me tourne vers vous. Ben oui, eh bien c'est Robert Pattinson dont la mâchoire se serre désormais sous le masque du torturé Bruce Wayne, alias Batman, qui enquête sur des machinations sadiques qui frappent la haute société gothamaise. Il rencontre évidemment des têtes connues comme Catwoman, incarnée par Zoe Kravitz, ou l'inénarrable Pingouin, interprété par Colin Farrell.
If this continues, it won't be long before you've nothing left.
I don't care what happens to me.
It's only gonna get worse for you.
Take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you?
Maybe we're not so different. Who are you under there?
I'm vengeance. And vengeance.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce Batman, Roland? Est-ce que Pattinson est votre Batman préféré?
En tout cas, il en est une excellente incarnation. En fait, ce que j'ai adoré dans ce Batman, c'est qu'il est sobre. Malgré tout, on reste sur une enquête, sur un polar en fait, de bout en bout, qui ne se perd pas. Il y a une ambiance extrêmement prenante et très immersive. Moi, pendant les 3 heures de film, je me suis pas ennuyé. J'y ai retrouvé, alors voilà, c'est encore une fois, c'est une opinion très personnelle, mais j'y ai retrouvé exactement ce que je voyais dans un Batman et ce que je voulais y voir, avec en plus un discours social qui est assez nouveau, en tout cas dans un univers de Batman et qui a déjà commencé sur le film Le Joker. Ouais. Et qui continue là. Et puis un Bruce Wayne vraiment torturé qui par ailleurs ne va pas montrer ce côté Golden Boy flamboyant. Et voilà, tout était réuni pour moi me plaire. Et avec en plus une iconisation des personnages comme j'avais pas vu depuis longtemps au cinéma. Que ce soit le Batman, la Catwoman, mais également la voiture de Batman, une scène absolument incroyable. Ben voilà. Donc moi c'était le gros coup de cœur. En plus j'étais voir avec un copain également dessinateur de BD qui est un gros fan de Batman, donc il m'avait fait aussi un historique, mais bon voilà, c'était les bonnes conditions.
Très bien, bon pour finir, toujours avec vous Renan, votre choix musique, figurez-vous que ça se croise, mais c'est incroyable cette gémellité entre vous, puisque c'est la musique d'Arcane.
En fait, je lui ai laissé fait.
Ah,
on a discuté avant sur les coups et j'ai dit celle-là je te la laisse.
Voilà, et c'est un titre qui s'appelle Enemy par Imagine Dragons. C'est juste une phrase, pourquoi vous adorez ça?
Ah mais parce que alors moi aussi j'ai adoré Arcane, ouais. et ce titre là est extrêmement porteur, et moi aujourd'hui je l'écoute en boucle ou quasiment en boucle avec d'autres quand je suis en train de dessiner les projets qu'on est en train de faire en ce moment.
Et ben voilà. Aujourd'hui il est sur France Inter, Imagine Dragons.
To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you
somebody pray, praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Day when I fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter up. Who the baddest? It don't matter because we is your
Enemy, un titre d'Imagine Dragons, le titre choisi par Ronan Toulouat.
Ouais, ouais, c'est très bien.
Ah, oui, c'est ça, je vous vois très très content et prêt à dessiner d'ailleurs.
Ouais. Dessiner,
bon. Pour finir cette émission, cette édition de Pop, je vous propose Alexandre Verret qui nous a concocté un petit grand n'importe quoi. Ça s'appelle le grand n'importe quoi justement, c'est fou.
Votre attention, s'il vous plaît. Le train 7857 plus 3 divisé par 2 arrivera quai numéro 9 plus 3 moins 7 avec un retard de 123 minutes moins 3 divisé par 2. Non, pardon, par 4. Non, par... Si, par 2. Oui, par 2. Par 2 je reviens vers vous. Merci.
N'importe quoi. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur téléphonique de la Gazette Illustrée du Télégraphe Éclairé. L'ensemble de notre rédaction étant actuellement décédé, merci de bien vouloir patienter.
N'importe quoi. Bon.
Écoutez, ça suffit. Et je vous demande d'arrêter de
déformer mes propos.
Mais arrêtez!
Arrêtez, meurs!
Arrêtez!
Alexandre Verret qui va de mieux en mieux de semaine en semaine. Merci à vous deux, merci Vincent Brugias et Ronan Toulouat. Je rappelle que vos deux nouvelles BD sont dans les bacs, La République du Crâne chez Dargaud et Kozak aux éditions du Lombard. Et partez à l'abordage de vos libraires, amis auditeurs, dès que possible, parce que ce sont des bijoux. Et merci à toute l'équipe de Pop et à Alix Barrois qui était à la technique aujourd'hui.